La voix est libre. Au FM 93, voici La Voix. Le prof, La Voix. Le prof, La Voix.
On fait appel au prof Lavoie aujourd'hui pour revenir 75 ans en arrière. Le 6 juin 1944, plus de 156 000 hommes débarquaient sur les plages de Normandie lors d'une des opérations militaires les plus célèbres de l'histoire. Luc, tu as eu l'occasion de te rendre en Normandie pour voir ce site-là. Ça doit être des émotions quand même de voir ça de visu des années après.
En tout cas, tous ceux qui peuvent se le permettre ou qui prévoient aller en France l'été prochain ou dans un avenir, à l'avenir, alors allez-y. C'est vraiment... c'est un tournant de la civilisation qui s'est passé là. Et tout ce qui en reste, tout ça, c'est absolument incroyable. Mais tu sais, quand on remonte un peu en arrière, ça a commencé à Québec, ça. Savais-tu ça que ça avait commencé à Québec, ça? Le débarquement de Normandie.
OK.
La conférence de Québec du 17 au 24 août 1943 au Château Frontenac, Mackenzie King, le Canadien, Franklin Delano Roosevelt, l'Américain, et Churchill se sont réunis et ont décidé ont pris les grandes décisions qui allaient mener au débarquement de Normandie. D'ailleurs, il y a plein d'anecdotes liées à ce sommet-là, dont une qui est assez, absolument délicieuse, mm-hmm. ou pas, ça dépend. Churchill, qui détestait pas prendre un coup, n'est-ce pas, était installé dans un bar du Château Frontenac. L'endroit existe encore, hein. Je veux dire, le château existe, mais ouais. Il y a l'endroit où il était. Il était assis là, puis il prenait son scotch, puis il était, je sais pas, 11h, 11h30 le soir, puis il a oublié des documents là.
Oh.
Alors, il y a un caporal de l'armée qui faisait partie des services de sécurité qui a trouvé le document. Le document, c'était le document qui annonçait le débarquement de Normandie. OK? Alors, quand le caporal s'est rapporté à ses supérieurs pour leur dire « Voici ce que j'ai trouvé
ouais. »,
le gars a été mis en résidence surveillée jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il pouvait pas quitter chez lui.
Il pouvait pas aller prendre une marche en Allemagne, ça étant
non, fait. Non, il pouvait pas rien faire. Il était obligé de rester enfermé chez lui. Donc, 17 au 24 août 1943, on décide du débarquement de Normandie. Et le débarquement aura lieu un peu moins qu'un an plus tard. Ça faisait depuis 1940 que les troupes américaines et surtout canadiennes s'installaient en Angleterre pour le jour où ils auraient à entrer dans les opérations de guerre. Mm-hmm. Déjà, le Royal 22e Régiment était très, très engagé parce qu'ils étaient dans la campagne d'Italie.
Ouais.
Mais la plupart des autres soldats, presque tous qui ont débarqué le matin du 6 juin, c'était leur première expérience sous le feu. Ce n'étaient pas des soldats aguerris du tout, du tout. Ça faisait des années qu'ils s'entraînaient en Angleterre, mais... Alors, ça a commencé, ça, le 5 juin. Ça a commencé comme hier soir, là. À partir de 10 heures le soir, ils ont envoyé des avions Dakota qui sont au fond des DC-3, et avec des parachutistes américains et britanniques qui ont été parachutés à peu près comme une douzaine de kilomètres à l'intérieur des terres pour créer ce qu'on appelle une tête de pont. Alors, ils voulaient aller sécuriser ce qui serait le bout de la tête de pont. Ils ont laissé je crois que c'est 10 000 parachutistes qui ont été lancés. Ça a été toute une aventure parce que pour se retrouver entre eux, c'était la nuit.
Ouais.
Et la nuit, en plus, c'était pas un ciel étoilé. Il faisait noir, 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 noir.
Pas de GPS, pas de vision nocturne à l'époque, là.
Non. Puis il y avait une espèce de petit cricket qui était fait en métal, qui avait été fabriqué pour ça. Pour qu'il se retrouve à travers dans les champs parce que c'était, voilà, clic, 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 clic. Et en même temps, peu après, décollaient des Dakota qui traînaient des planeurs en bois. Les planeurs en bois, à l'intérieur de ceux-là, tu trouvais une petite Jeep, ou tu trouvais une pièce d'artillerie,
okay.
Ou tu trouvais... Et là, les Dakota les ont amenés jusqu'au bord des côtes, et ils ont laissé planer. Et là, c'était fou, là. Ils atterrissaient dans le champ sans trop savoir à quelle place qu'ils allaient atterrir. Il y en a beaucoup qui ont craché. Il y en a au moins la moitié qui se sont détruits avant d'avoir la moindre utilité. Et là, ces troupes d'avant-garde ont commencé à prendre graduellement un peu le contrôle. C'est un premier village qui est magnifique à voir, d'ailleurs, qui s'appelle Sainte-Mère-Église, qui a été le premier village libéré. Et tout le monde a dû voir un jour l'image du parachutiste américain qui est accroché au clocher de l'église.
Ouais.
Là, parce que d'ailleurs, quand tu vas à Sainte-Mère-Église, maintenant, ils ont reproduit ça. Il y a comme un mannequin,
okay.
Là, qui fait... Là, ouais. Et c'est et là, soudainement, quand l'aube s'est levée, les Allemands ont vu devant eux autres 5500 navires militaires qui étaient sur le point d'ouvrir le feu. Et quand ils ont ouvert le feu, ça a été accompagné d'une centaine d'escadrons de chasseurs et de bombardiers. Et là, ça a commencé le débarquement. Comment ça s'est opéré? D'abord, c'était en Normandie. Ils ont choisi la Normandie. Ils ont réussi par toutes sortes de stratagèmes à faire croire aux Allemands qu'ils allaient passer par le Pas-de-Calais.
C'est ça. Les forces de l'Axe les attendaient plus au nord.
Oui, plus au nord. Alors, le matin en question, bombardement incroyable. Tu imagines 5500 navires de guerre. Puis quand tu vas sur la plage en question, tu imagines la scène. C'est absolument incroyable. Bombardement, puis ils avaient divisé le travail à faire en 5 plages. Hein? Sword et Gold étaient des plages réservées aux Britanniques. Juneau, qui était la plage où les Canadiens ont débarqué. C'était à Courseulles-sur-Mer, c'est magnifique, j'y ai été, c'est une station balnéaire maintenant.
Okay.
Et Omaha et Utah, qui étaient les deux plages réservées aux Américains, elles étaient les deux plus dangereuses. Et la bataille de Normandie a failli finir là. Parce qu'à Omaha puis à Utah, les Américains se sont enlisés d'une façon incroyable. Ils avaient entre autres inventé, pour réussir cette opération-là, toutes sortes de nouveaux types d'armements. Entre autres, ils avaient développé une espèce de toile dont ils enveloppaient les chars d'assaut. Et quand le char d'assaut, quand la péniche de débarquement s'ouvrait puis que le char d'assaut s'en allait à l'eau, il flottait. C'était ça le principe.
Okay.
Sauf qu'il y avait des vagues d'à peu près 4-5 pieds de haut. Fait que presque tous les chars d'assaut américains ont tourné de bord,
presque,
ont chaviré, ont été complètement inutiles. Et là, on arrive au cœur de l'affaire. Juneau, où étaient nos Canadiens, les premiers à mettre le pied là, c'est le Regina Rifle Regiment. Il était 8h05 le 6 au matin. Et à 8h10, n'oublions pas ça, 8h12 pour être plus précis, les très valeureux et magnifiques combattants du régiment de la Chaudière, oui, commandé par le colonel, lieutenant-colonel Paul Mathieu, et qui comptait en leur sein le célèbre Léo Major, qu'on dit le Rambo québécois, là, parce qu'à lui seul, il a libéré un village hollandais. Et là, ils sont arrivés, nos soldats, avec des bicyclettes. Ils débarquaient des péniches, ils avaient leur arme personnelle, leur espèce de kit sur le dos, et ils avaient une bicyclette, parce que l'idée, c'est qu'il fallait que dès qu'ils passent la plage, qu'ils partent vers l'intérieur pour aller justement rejoindre les unités qui avaient été placées là par des parachutistes et tout. Et là, tu voyais les... Et on le dit pas par chauvinisme. La vérité, c'est que des 5 plages du débarquement de Normandie, celle où ça a le mieux fonctionné, c'est Juneau, c'est la plage canadienne, à tel point que les soldats du régiment de la Chaudière et les autres, là, qu'il y avait quand même le Regina Rifles, puis le Royal Winnipeg Rifles, mais les valeureux combattants, et ceux du régiment de la Chaudière, ils avaient choisi pour les mettre en avant parce qu'ils parlaient français.
Ah oui.
Et qu'il fallait prendre contact avec le peuple à mesure qu'ils avançaient. Et ils ont avancé tellement qu'ils ont été obligés de les arrêter. Ça allait trop vite.
Okay, la percée était trop rapide versus ce qui se passait.
Était trop
sur
rapide. Oui, puis ils risquaient de créer une espèce d'espace impossible à combler. Ça a été une bataille, mais une bataille d'une sauvagerie, En fait, tu regardes la planification qui avait été faite, on appelait ça l'opération Overlord, d'après le nom de code, et ils ont eu moins de pertes que ce qui avait été prévu par les planificateurs. Maintenant, une fois installée la tête de pont, puis ils ont pu le confirmer, il était à peu près en fin d'après-midi, il fallait maintenant débarquer des véhicules. Alors, ils ont créé un port artificiel à Romanche, c'est incroyable. Pour créer un port artificiel, ils ont créé des brise-lames en amenant des bateaux par les coulants. Ils amenaient le bateau, là, un vieux rafio quelconque venu d'Angleterre, puis il coulait, puis ils en ont coulé plusieurs. Comme ça, quand tu vas à Romanche, t'en vois encore.
Okay.
Ça a créé le brise-lame qui permettait d'avoir un port qui avait un peu de stabilité pour faire débarquer, pas 200, pas 300... 10 000, 15 000, 20 000 véhicules, ça arrêtait jamais, puis il fallait que la tête de pont continue. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, waouh, ça va vite, c'est vraiment une grande réussite. Et là, il a commencé la bataille de Caen, où là, les Canadiens ont joué un rôle déterminant. t'avais justement le régiment de la Chaudière, les fusiliers Mont-Royal s'étaient joints à eux, le régiment de Maisonneuve s'était joint à eux, il y avait une partie du Royal 22e qui était là aussi, c'était une bataille sanglante. Toute la bataille de Normandie a duré 85 jours. Avant vraiment là, qu'ils sortent de Normandie en contrôle, là, il a fallu que ça se termine par une espèce de massacre qu'on a appelé la bataille de Falaise, où il y avait comme une... C'était comme une crevasse, Falaise. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont encerclé... D'abord, ils ont été obligés de sacrer à la porte le maréchal Montgomery, le Britannique qui commandait les troupes canadiennes et britanniques, parce que, on sait maintenant, l'histoire est pas très douce avec lui, c'était un prétentieux et tout, puis ils ont ramené Patton. Patton, qui avait été mis... sur la voie d'évitement, parce qu'il avait fait des conneries, entre autres, donner une claque sur la gueule à un blessé dans un hôpital, puis enfin, de toutes sortes de conneries. Sauf que c'était probablement le plus grand général de l'histoire des États-Unis et peut-être du monde. Et Patton a repris l'armée, il a traversé Falaise. Alors là, 85 jours plus tard, là, on est à la veille de la libération de Paris, puis là, vraiment, le contrôle a été ressaisi par les troupes alliées. Et ça a été le début de la fin. C'était l'étau qui se resserrait. T'avais les troupes soviétiques qui s'en venaient de l'Est. T'avais les troupes alliées qui s'en venaient de l'Ouest, qui les prenaient comme en tenaille et qui finalement les ont anéantis, quoi. Alors, c'est une journée dont les gens doivent absolument, mais absolument se souvenir, parce que c'est probablement un des grands points tournants de l'histoire de la civilisation, ce débarquement-là. Alors, qu'on s'en souvienne, c'est notre engagement. Et je voulais terminer avec une note, un tantinet poétique.
Oui.
Il y avait eu beaucoup de coordination, beaucoup d'espions infiltrés en France pour aller se mettre en contact avec la résistance française, le maquis, comme on l'appelait. Et eux autres, ils avaient une tâche, dès que le débarquement commençait, c'était de faire sauter les voies de chemin de fer puis les ponts pour empêcher l'armée allemande de venir se renforcer. Et comment avait-il été averti que c'était le débarquement? La radio de Londres, qu'ils écoutaient toujours, la BBC en français, ils savaient que c'est ça qui serait le mot de code. C'était un extrait de Verlaine, de Paul Verlaine, le grand poète. « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. » Et c'est par ces quelques mots poétiques que s'est déclenchée l'opération Overlord. Une opération incroyable.
Merci beaucoup, Luc, pour le rendez-vous avec l'histoire. Je trouve que on a un devoir de mémoire, fallait absolument qu'on en parle aujourd'hui, puis tu le fais de façon...
Oui, on l'a le devoir de mémoire, oui. Parce que tu sais, Jeff, que c'est le seul engagement qu'on a pris à l'égard de ces gens-là, c'est bon, on va se souvenir de ce que vous avez fait, on va se souvenir de vous. Mm-hmm. S'il vous plaît, n'oublions pas.
Merci beaucoup, Luc, à demain.
À demain.
Merci, bye.